VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Encore un week-end sanglant au Burundi, au moins 5 personnes tuées, une vingtaine de jeunes auraient également été arrêtés et conduits à la prison centrale de Bujumbura. D'autres ont été relâchés. La violence s'intensifie même dans certains coins reculés du pays. À Makamba, dans le sud, près de la frontière avec la Tanzanie, des personnes dorment à la belle étoile la nuit par crainte pour leur sécurité, selon une ONG internationale. De Bujumbura, les précisions de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Les témoignages de la population du quartier Ngagara sont formels. Vers 16h samedi après-midi, dans le bar chez Masuguru, près du lycée Saint-Albert, un groupe de policiers tire. Puis une vingtaine de jeunes qui étaient en réunion de mariage sont arrêtés. Mais entre-temps, trois personnes, dont un employé d'une banque, sont tuées. Le porte-parole adjoint indique que des criminels armés étaient en réunion dans ce cabaret. Des armes, dont des kalachnikovs, ont été saisies selon la police. Alors que la population s'interroge comment des jeunes qui sont en réunion pendant la journée peuvent-ils être arrêtés, la police affirme que c'est pour des raisons d'enquête. Mais les sources des familles de ces jeunes reconnaissent qu'ils ont été déjà amenés à la prison centrale de Mpimba. Presque toute la nuit de samedi vers dimanche, les tirs à l'arme automatique et des grenades ont été entendus dans différents quartiers contestataires au sud et au nord de Bujumbura. Une personne a été tuée à Ruziba au sud, tandis qu'une autre a été retrouvée morte au nord du pays, dans la province de Kirundo, près de la frontière avec le Rwanda. Mais selon une ONG internationale réfugiée, la violence est aussi remarquée dans la province de Makamba, au sud du Burundi. Des familles craignent pour leur vie et dorment dans la forêt ou à la belle étoile, tout comme la plupart des citadins vivant dans les quartiers contestataires de la capitale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le pape François s'apprête à visiter trois pays d'Afrique du 25 au 30 novembre. Il se rendra en Ouganda, au Kenya et en Centrafrique. Le souverain pontife trouvera pour son premier voyage sur le continent africain une église catholique en pleine croissance, véritable pouvoir politique et social, mais qui affronte des défis redoutables, dont l'islamisme radical. Morgane Guiriec.
Et c'est la première fois que Jorge Bergoglio se rend en Afrique, continent où la croissance des catholiques est la plus rapide. Au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique, François trouvera des communautés chrétiennes sur la défensive face au djihadisme. L'Église catholique africaine campe sur des positions très intransigeantes en matière de mœurs, dénonçant le conditionnement par les pays occidentaux de leur aide à l'adoption de législations favorables à la contraception, l'avortement et l'homosexualité. Le pape devait lancer des appels forts à maintenir la coexistence pacifique et l'esprit de tolérance traditionnelle entre chrétiens et musulmans. François devrait aussi demander aux catholiques africains de surmonter les haines ethniques alors que celles-ci renaissent au Burundi de manière menaçante. L'échec à empêcher le génocide du Rwanda en 1994 reste le grand échec du catholicisme africain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, maintenant au Mali. Le deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'attaque du 20 novembre a débuté ce lundi. Un état d'urgence de 10 jours a aussi été décrété par le gouvernement. Les auteurs de l'attaque de vendredi à l'hôtel Radisson Blue de Bamako ont bénéficié de complicité pour se rendre à l'établissement et exécuter leur opération, a affirmé le procureur antiterroriste chargé de l'enquête. Le procureur a invité à la prudence concernant les revendications de l'attaque, estimant qu'aucun groupe n'était cependant à écarter. Après le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, c'est au tour du Front de Libération du Massina, groupe djihadiste du centre du Mali, de revendiquer le carnage qui a fait 22 morts vendredi dans la capitale malienne. Alors que le procureur anti-terrorisme a ouvert une enquête, les forces de sécurité sont à la recherche de 3 suspects dans l'attaque. Par ailleurs, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée, 3 pays voisins, se sont joints par solidarité au deuil qui frappe le Mali. On écoute la réaction du président sénégalais Macky Sall après sa visite à Bamako.
Je suis venu dire au président Ibrahim Boubacar Keïta que jamais le Mali ne sera seul. Nous avons vu combien la haine a pu marquer ces assaillants, ces criminels qui ont tué des innocents, qui avaient juste le tort d'être là au mauvais moment. Je pense que cela montre simplement que, encore une fois, plus que jamais, nul n'est à l'abri de telles agressions barbares et que le moment est venu qu'il y ait une prise de conscience globale, puisqu'il faut une action globale pour mettre fin à ce genre de carnage et d'action.
Le président Macky Sall du Sénégal. Au Burkina Faso, la campagne électorale bat son plein et pour la société civile, c'est l'occasion de sensibiliser les électeurs à la corruption liée aux élections. Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou, nous en dit plus.
Pendant que les politiques battent la campagne pour avoir des électeurs à tout prix, à côté, il y a les organisations de la société civile qui font elles aussi la campagne, mais pas pour les mêmes raisons. Le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, mène, elle, une campagne contre les pratiques irrégulières en matière d'élection. Dieudonné Yameogo, le président d'honneur du RENLAC, explique.
Aujourd'hui, que constatons-nous? C'est la publicité partout, purement et simplement la publicité politique. Or, la loi électorale interdit ça. Au niveau des affichages même, la loi électorale indique qu'il y a des lieux spécifiés par l'autorité communale où les partis doivent aller afficher là-bas. Bon. On se rend compte qu'aujourd'hui, les affichages se font n'importe comment. Sur le plan financier, nous menons une campagne de sensibilisation pour amener les gens à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas prendre 10 000 francs pour aller voter là qui est le problème. Le problème qu'on doit résoudre là, c'est savoir est-ce que la personne qu'on va élire là, est-ce que cette personne est à même de régler nos problèmes.
En parallèle, il y a cette autre campagne qui se base sur l'humour. Pour corriger les mœurs politiques. On écoute Abdoulaye Diallo du Centre national de presse Norbert Zongo, initiateur de Humour, corruption électorale et élections apaisées.
On a décidé effectivement d'utiliser l'humour, la dérision, mais pour passer un message fort. Chaque humoriste va vendre son projet et le public est tenu de voter. Et à la fin, on va choisir le président qui sera élu. Et c'est pour ça qu'on a installé une commission humoristique électorale nationale indépendante, la CHENI. Le président élu va passer un message, cette fois-ci, pas un message d'humour, mais un vrai message au candidat qui va être élu après les élections du 29 novembre. C'est cette campagne d'éducation, de sensibilisation de la population. C'est cette campagne que nous menons. Nous ne menons pas la campagne pour être élu député ou être élu président, mais pour que quand les députés et le président qui vont être choisis soient vraiment le reflet de la volonté du peuple.
Après ta révolte, ton vote, tel est le mot d'ordre lancé par le balai citoyen pour inciter les populations à aller voter. Suivons ce qu'en dit Seydou Zengue et Kevin Tiemtouré, deux jeunes étudiants.
On s'est révolté contre le président Blaise Compaoré et deuxièmement contre un coup d'État qu'on a jugé stupide. Passons maintenant au vote. Votons celui que nous jugeons capable de nous diriger et ne pas chercher à modifier l'article 37 comme certains l'ont voulu faire.
C'est un slogan qui nous pousse à aller voter, à choisir un président qui va nous conduire à un développement, à un pays plus émergent.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Élections en Égypte, deuxième étape hier des législatives devant déboucher sur la formation d'une assemblée nationale pour la première fois depuis 3 ans. Les partisans du président Abdel Fattah al-Sissi avaient raflé la mise au premier tour et aucun candidat de l'opposition n'était représenté dans le scrutin de dimanche. La lutte antiterrorisme en Belgique. Bruxelles vit aujourd'hui sa 3e journée d'alerte antiterroriste maximale au lendemain d'une série d'opérations policières qui n'ont pas permis d'arrêter Salah Abdeslam, suspect clé dans l'enquête sur les attentats de Paris. Les autorités belges ont décidé dimanche de maintenir une journée de plus le niveau d'alerte à son maximum dans la région bruxelloise et de prolonger la fermeture du métro. Les écoles sont également fermées, ainsi que les crèches, les universités et les grandes écoles. Quant à la France, traumatisée par les attentats de Paris, elle va rendre hommage à ses morts cette semaine avec les premiers enterrements qui devraient avoir lieu aujourd'hui avant un hommage national vendredi. Le président français François Hollande s'entretiendra demain à la Maison-Blanche avec son homologue américain Barack Obama dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays pour encourager la campagne contre le groupe État islamique et promouvoir un règlement politique de la guerre civile en Syrie. Selon Washington, les deux leaders discuteront du renforcement de la coopération dans le cadre de la coalition menée par les États-Unis qui bombarde les positions des militants de l'État islamique en Irak et en Syrie depuis plus d'un an. L'aviation française participe à cette opération. Et puis, le secrétaire d'État américain John Kerry a quitté Washington dimanche pour un voyage au Moyen-Orient qui mettra l'accent sur la guerre civile syrienne et les efforts multinationaux pour une transition politique à Damas, alors que la violence continue entre Israël et les Palestiniens. Avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas, John Kerry envisagera probablement des mesures qui pourraient mettre un frein à la spirale de violence de la région et ouvrir la voie à un calme permanent entre les deux parties. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.